oscillation temporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût, dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation Intemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation Intemporelle est animé par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Nous partons pour ce mois de décembre faire un petit tour avec Maurice Ravel, l'orchestrateur et le compositeur, agrémenté de deux moments d'histoire et petits potins avec Philippe. Diffusion le 1er décembre et rediffusion le 15 décembre. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site fréquence7.net. En lecture directe ou téléchargée. Parce qu'une œuvre musicale est comme une histoire, qu'il y a un début et une fin, je vous propose de découvrir dans leur intégralité les deux œuvres symphoniques d'aujourd'hui. Le tableau d'une exposition ? Alors, Moussorgski.
Tableau d'une exposition. Alors, c'est Moussorgski et puis c'est surtout Moussorgski-Ravel. Parce qu'on connaît plus la version orchestrale aujourd'hui, ouais. qui a été faite par Maurice Ravel, grand champion de l'orchestration, effectivement. Et le point de départ, donc, c'est une suite pour piano de Modeste Moussorgski. Donc, Modeste Moussorgski, c'est un groupe de compositeurs au 19e siècle. Moussorgski qui a laissé des œuvres qui sont sans concession, je dirais. C'est-à-dire, on pourrait opposer Tchaïkovski et Moussorgski. Tchaïkovski, c'est le grand compositeur russe, mais qui regarde vers l'Europe, qui regarde vers Brahms, qui regarde vers des passerelles possibles avec Vienne, avec Berlin, avec Paris, avec Londres. Moussorgski, lui, il est russe. Il est russe et russe. Donc, toute sa musique raconte ça. Les opéras, c'est Boris Godounov. C'est à la fois somptueux et assez déroutant des fois pour nous. Et il laisse ce cycle pour piano qui est vraiment magnifique, hein, tableau d'une exposition, tout est dit. Nous avons à chaque mouvement un tableau différent qui nous est offert. Il y a le bidlo, par exemple, il y a ce chariot dans la steppe qui avance, voilà. Et donc Moussorgski nous en propose un déroulé dans le temps. Il y a la grande porte de Kiev, magistrale, avec laquelle il va terminer le cycle. Étonnamment, il y a le marché de Limoges, donc ça c'est plutôt rigolo. Il y a le jardin des Tuileries, il y a la Baba Yaga, donc la sorcière à cabane sur pattes de poule, il y a le balai des poussins dans leur coque, il y a le Vecchio Castello, le vieux château, donc on imagine que c'est des ruines plutôt italienne, voilà. Et puis il y a quand même ce thème très très célèbre de la promenade qui va jalonner toute l'œuvre, qui sert un peu de leitmotiv, c'est-à-dire c'est le promeneur, c'est peut-être le personnage même du promeneur qui va d'un tableau à l'autre, et ce promeneur a ce thème qui est souvent exposé au cuivre, à la trompette notamment, et puis plus de manière plus fragile à la flûte à un moment donné. Et puis on déroule effectivement tous ces tableaux. Je vais pas tous citer, mais il y a le tableau du juif très riche et du juif très pauvre, qui était une magnifique pièce. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment de la musique romantique dans ce sens où elle est libre de sa forme. Chaque tableau offre une forme très très libre, avec une expression très 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 ciselée. L'œuvre pianistique est somptueuse, vraiment somptueuse, et mériterait d'être plus souvent joué dans sa version piano également. Et la version orchestrale de Ravel, c'est juste un très grand chef-d'œuvre d'orchestration.
Voici donc la suite des tableaux de l'exposition entre la promenade qui commence et s'intercale. Donc promenade, ensuite gnome, promenade, le vieux château, promenade, tuileries, bidlo, promenade, balai des poussins dans leur coque, Samuel Goldenberg et Schmuil, Limoges, le marché, catacombe, con mortuis in lingua mortua, la cabane sur pattes de poule, la grande porte de Kiev. La version que nous écoutons est celle de l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Cassé Scaglione, enregistrement de septembre 2019.
Thank you. Thank you.
Vous êtes bien sur Fréquence 7 en voyage de par le monde. Et nous continuons avec Ravel, Maurice Ravel. Le Boléro, c'est fantastique, n'est-ce pas?
Alors, le Boléro, c'est l'œuvre dite de musique classique la plus jouée au monde. Donc, bon, il y a eu des débats homériques avec les ayants droit et la SACEM, jusqu'à encore très peu de temps, parce que ça rapporte tellement d'argent que voilà. Mais le pauvre Ravel, il était très 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 loin de toutes ces considérations très, très contemporaines. Hein. Le Boléro, alors faut pas oublier, c'est un ballet. Au départ, c'est un ballet, et c'est un ballet qui a quand même cette particularité assez incroyable, c'est qu'il est basé sur trois thèmes. Un thème rythmique, et deux thèmes mélodiques. Et ça ne se développe pas. Ça gagne en orchestration, c'est-à-dire que ça démarre avec rien, juste une caisse claire, quelques pids de cordes et la flûte. Et puis au fil du temps, on va rajouter un instrument, le thème va être présenté par tel autre instrument, etc., etc. Et puis on va étoffer l'orchestration, mais à un moment donné, on ne peut plus étoffer l'orchestration. Donc c'est peut-être pas une œuvre jubilatoire, mais c'est peut-être une œuvre qui s'auto-détruit. Alors moi j'ai eu le bonheur de la diriger plusieurs fois, cette œuvre, et on est dans un engrenage mécanique de quelque chose de fascinant, mais comme la mort peut fasciner, parce que c'est inéluctable la fin du Boléro. Qu'est-ce qui se passe quand on a exploré toutes les ressources orchestrales et toutes les dynamiques et qu'on ne peut plus jouer plus fort que ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Et l'œuvre s'auto-détruit. Elle s'effondre sur elle-même, c'est extraordinaire. Et le soir de la création, visiblement, une femme a crié dans le théâtre « Au fou !» Et Ravel a dit « Ah, ben, y en a une qui a compris. »
C'est vrai qu'à la fin, ça fait comme une cascade de quelque chose qui s'écroule complètement.
Oui, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est pas jubilatoire. C'est pas jubilatoire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autodestruction. Le projet initial, c'était un ballet qui se passait à la sortie d'une usine où une prostituée devait aguicher les ouvriers qui sortaient. Alors on est dans l'entre-deux-guerres, il y a le futurisme en Italie, il y a la mécanisation des choses. Okay. Le projet n'a pas été retenu finalement, mais c'était le projet de départ de cette chose mécanique qui ne peut pas se développer, qui est enfermante. Alors elle est pleine de séduction, elle est fascinante, elle est incroyable quand on le vit en concert, parce que cette sensualité des deux thèmes mélodiques, elle est extraordinaire, mais en même temps, les instrumentistes n'ont que très peu, voire aucune marge de manœuvre. Tout est extrêmement cadré par Ravel, à qui on a fait cette réputation tout à fait justifiée de compositeur d'horloger suisse. Avec une telle minutie, voilà, c'est une œuvre fascinante.
Mmh. C'est vrai que les timbales, enfin, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, les timbales, le gars, il est les yeux sur la partition, mais il fait pom, 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 ouais. Il fait ça. Et là, pratiquement tout le long, la caisse claire tout le long, ah, voilà. Il y a quand même les yeux sur le...
Bien sûr, bien sûr. Et le grand soliste de cette œuvre, c'est l'instrumentiste qui est à la caisse claire. Mmh. Et que moi, je sollicite toujours à côté de moi, à ma gauche, quand je dirige. Parce que pour lui, c'est quand même 16 minutes à traverser où il ne faut pas broncher. Mmh. C'est redoutable.
Ça me fait mal.
C'est redoutable.
La version que nous découvrons est celle de l'Orchestre symphonique de la WDR, Radio Nationale de Rhénanie du Nord-Westphalie, sous la direction d'Alondra de la Parra, enregistrée en janvier 2022. Le Boléro est un long crescendo, le son commence tout doucement. Tendez l'oreille ou montez le son. Et voilà, bam. Je fais comment, moi, pour reprendre la parole après ça? Peut-être avez-vous des images dans la tête, le ballet, les danseurs, la création de Maurice Béjart en 1960, ou alors l'interprétation de Georges Donne de cette même chorégraphie de Béjart, et le film Les uns et les autres de Lelouch, sorti en 1981. Et peut-être vous avez juste envie que recommence le boléro et continue encore plus fort. Mais c'est tout pour aujourd'hui. À vous de jouer maintenant. La prochaine oscillation atemporelle de fréquence 7, c'est le mois prochain. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Et si entre-temps, l'envie vous prend de soutenir votre radio décalée parce que vous aimez sa différence, alors pour adhérer ou faire un don, vous pouvez procéder aux démarches indiquées sur le site où vous êtes les bienvenus à la maison de la radio, ou lors des manifestations quand l'équipe anime le studio nomade ou tient la buvette, ça c'est la polyvalence. Et à bientôt.